Vous écoutez les programmes de Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Le Grand
Dialogue.
Quelle sera la couleur de l'année scolaire au Mali? Les négociations entre le gouvernement et les enseignants sont bloquées. 3 points de désaccord sur 10 points de revendication. Les enseignants disent travailler dans de mauvaises conditions. Le ministre de l'économie et des finances estime qu'ils font partie des mieux payés au Mali. En attendant, une nouvelle grève devrait commencer le 15 avril prochain. Alors, quel avenir pour l'année scolaire au Mali? Qui sont les principales victimes de cette situation? Les autorités maliennes en font-elles leur priorité? Les enseignants exagèrent-ils? La société civile joue-t-elle réellement son rôle? L'interpellation de l'Assemblée nationale a-t-elle servi à quelque chose? Quelles sont les solutions? Le Grand Dialogue pose le débat. Et nos invités sont Soumana Koulibaly, membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Djuka Madi Sissoko, médiateur dans la crise scolaire, et Kumba Tangara, parent d'élèves. Nos sollicitations à l'endroit des autorités scolaires sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Première question à vous, Monsieur Soumana Koulibaly. Vous êtes membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les négociations avec le gouvernement?
Ok, merci Touré. Tout d'abord, je tiens à remercier une fois de plus le studio Tamani pour l'effort de patriotisme que vous menez au compte de l'école malienne. Vraiment, ça fait la quatrième, sinon la cinquième fois que des débats se tiennent autour de cette crise-là. Vraiment, c'est à saluer. Et cela est à votre actif. Et pour revenir à votre préoccupation, à l'heure où nous sommes, les négociations ne sont pas bloquées. Mais il y a un temps mort. Un temps mort dans les négociations. Et les points de divergence sont au nombre de 3, vous l'avez dit. Et la question de la prime de logement, la question relative à la lecture du décret portant indemnité des examens de concours en République du Mali, et ensuite l'accès des anciens fonctionnaires des collectivités qui sont les plus nombreux aujourd'hui aux services centraux de l'éducation. Donc, vu l'évolution de la situation, nous supposons que, en tout cas, il n'y a pas blocage, mais il y a un temps mort qui est mis à profit par les différentes parties pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise-là. Ça, c'est la préoccupation fondamentale des syndicats. Et contrairement à ce qui s'est dit de l'autre côté, notre souci, c'est qu'on puisse sortir de la crise. La preuve en est que les différents mécanismes de médiation qui ont été menés par les familles fondatrices, par les coordinateurs des quartiers de Bamako, par les CGS, par la FENAPEM, la Fédération des parents d'élèves, prouvent à suffisance que, en tout cas, le dialogue n'est pas rompu. Nous sommes en train de dialoguer là-dessus et je pense bien, j'ai bon espoir qu'on pourra trouver une issue favorable à cette crise-là.
Mais vous dites que votre objectif, c'est de sortir de cette crise. Pourtant, vous aviez 10 points de revendication, 7 sont satisfaits, 3 ne sont pas satisfaits. Vous n'acceptez toujours pas.
Oui, c'est ça. Et malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est que, comme nous l'avons toujours dit, dès le début de l'année, nous sommes inscrits dans une dynamique de négociation annuelle obligatoire, bon, qui n'existe pas au Mali. Nous sommes inscrits dans ce cadre-là. Mais malheureusement, l'administration ne nous a pas compris. Et elle a traité la question scolaire dans une dynamique qui fait que la crise a pris une autre tournure. Sinon, sans quoi, je vous l'ai dit, depuis août, nous avions démarché l'administration pour qu'on puisse négocier sincèrement sur la faisabilité de telle ou telle revendication. Mais malheureusement, nos appels n'ont pas été entendus. Et les points d'accord que vous venez de citer, les 6 points d'accord plus l'accord partiel, se sont obtenus au cours des négociations. Et lors de la première séance de conciliation, le doyen est là, il va faire un rappel sur ça. Et on a pu obtenir que 3 points d'accord en décembre. Il a fallu attendre le mois de février pour qu'on puisse trouver un accord sur même les cas de violation des textes de la République. Par exemple, si vous prenez le point 8 portant sur l'annulation des décrets 800 et décrets 801, c'est des décrets qui violent les textes de la décentralisation. On n'a pas besoin de déposer un préavis pour satisfaire cette doléance-là. Mais il a fallu attendre le mois de février pour que le gouvernement puisse donner son accord sur ça. Donc vous comprenez un peu la dynamique entretenue par l'administration.
Oui, mais si vous avez 7 points satisfaits et 3 ne sont pas satisfaits, pourquoi vous ne pouvez pas commencer à travailler avec ces 7 points et attendre que les 3 autres soient satisfaits?
Le problème, c'est que au Mali, lorsque les autorités s'engagent, ils ne les honorent pas. Et je vous dis, je vous rappelle que parmi nos revendications, certaines sont même anciennes. Certaines datent de 2 ans. Si vous prenez le point sur la revalorisation de la situation administrative des sortants des liens sous nouvelle formule, c'est depuis 2017. Il y a un support juridique qui permet aujourd'hui à l'État de régler ce point-là. Un accord, un procès verbal de conciliation officiel dûment signé par toutes les parties.
Donc on peut dire aujourd'hui que le problème, ce n'est pas la non-satisfaction des 3 autres points, c'est une question de confiance entre vous et le gouvernement.
Exactement, j'allais en venir. C'est que par le comportement des administrateurs, nous n'avions pas été rassurés. Ce qui fait que nous avions en tout cas noté de côté la mauvaise foi des administrateurs et par là même des hommes politiques à accorder un intérêt capital à l'éducation. Et c'est ce qui nous vraiment fait que nous sommes dans cette situation malgré nous-mêmes. Ce n'est pas de bon gré de vouloir perdurer dans une crise. Et ce qui est évident aussi, en République du Mali, il n'y a pas de cadre permanent de dialogue entre l'administration et les travailleurs. Et ce qui oblige les syndicats à relancer les préavis pour que les cadres formels puissent être réunis et qu'on puisse discuter. Mais malheureusement, lorsque le cadre est mis en place, les administrateurs, je m'en tiens toujours à eux, parce que leur approche à la manière, ce n'est pas une approche productive. Ce qui fait que nous sommes souvent dans l'impasse. Par exemple, pour trancher sur des questions très simples, le plus souvent, les administrateurs font recours à leur hiérarchie, qui ne sont même pas accessibles en temps réel.
D'accord, nous allons y revenir tout de suite. Alors, Diogo Amadi Sissoko, vous êtes médiateur dans cette crise. Est-ce que vous pensez que le blocage réel, c'est une question de confiance aujourd'hui?
Bon, d'abord, je vous remercie. Et également, je me joins à lui pour vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'école. C'est-à-dire que je n'ai pas vu tableau aussi sombre que cette histoire-là au niveau de l'enseignant, entre les syndicats
et
le gouvernement. Parce que moi, je crois que vraiment, quand on est syndicaliste, on vise un but. Ça peut étendre dans le temps et dans l'espace. Mais quand on veut tout et tout de suite, on pose des problèmes. Mais nous, parents d'élèves, nous sommes obligés de supporter les enseignants, les syndicats des enseignants. Et c'est pour ça qu'on leur a dit, depuis le départ, mettez-nous en symbiose pour pouvoir au moins avoir ce que vous voulez au niveau de l'État. Nous avons la possibilité de le faire, de contraindre le gouvernement à le faire. Il dit qu'il n'y a pas de confiance entre eux et le gouvernement. C'est forcé parce que chaque fois, vous amenez le gouvernement par la peau des fesses à accepter certaines situations qu'il ne peut pas gérer. Donc, au bout du rouleau, c'est parce qu'il ne peut pas le faire, donc maintenant, ça échoue.
Donc, vous pensez qu'il demande trop aujourd'hui?
Non, je ne pense pas que c'est normal qu'il demande. C'est tout à fait logique que l'enseignant demande à être vraiment dans les conforts. Et même le gouvernement l'a reconnu. Mais je vous assure que pendant ces négociations-là, je n'ai pas vu un gouvernement qui a été aussi clair que ça. Et je remercie d'ailleurs Arakitala pour son intervention, parce qu'elle a dit, nous voulons bien le faire, nous ne voulons plus vous mentir. Mais aujourd'hui, si on vous dit qu'on va vous donner ces primes de logement-là, c'est ce que nous vous avons menti. Et nous allons revenir encore à la case de départ. Accepter seulement de constituer un cadre de concertation à cet effet, pour qu'on puisse trouver une solution à vos doléances. Est-ce que vraiment ça, c'est des termes qui doivent choquer quelqu'un qui veut négocier? Parce que moi, je dis aux enseignants, il ne faut pas qu'ils se trompent de cible. La cible qui nous intéresse aujourd'hui, là, ce sont les enfants. Et c'est pour ça que j'ai même dit à l'État, nous avons dit à l'État, attention, rétablissez les allocations familiales, parce que nous ne voulons pas que vraiment cela soit coupé. Il y a un manque de confiance entre eux. Mais eux aussi, ils sont trop jusqu'au boutistes. Le mot syndicalisme a été galvaudé. Le syndicat, ce n'est pas comme ça qu'on doit mener le syndicat. Il y a des problèmes qui ont été négociés, qui ont été résolus, acceptés au cours de ces négociations-là, qui avaient été posés depuis 1997, je ne sais pas quelle année encore. Alors, si aujourd'hui vous arrivez à découper tout ça, sur 10 points, vous avez 6 points et demi, sinon 7 points et demi, je crois que vraiment on peut s'en contenter. Et pensez aux enfants. L'avenir est très sombre. Monsieur Touré, moi je vous le dis franchement, je n'ai pas l'habitude de mentir aux gens. Tout le monde me connaît. Tous ceux qui me reconnaîtront sauront que ce monsieur-là n'a jamais menti, ne fait jamais plaisir à quelqu'un en lui cassant le sang des poils. L'école a un avenir aujourd'hui qu'on risque vraiment de mettre en année blanche.
D'accord.
Et nous, on va en vouloir aux enseignants.
L'État, ce qu'il dit tout de suite, c'est que l'État a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas confiance aujourd'hui au gouvernement.
Et c'est tout à fait normal. Nous, on leur a dit. Maintenant, vous avez des partenaires en face de vous qui veulent vous aider. La société civile et les parents d'élèves. Nous allons nous mettre en synergie pour dire à l'État vraiment ce qui ne va pas. Pour que l'État accepte enfin. Mais ce qu'il demande là, ici, c'est un peu trop au-dessus de nos moyens, de moyens de l'État. Ils disent que l'État a les moyens, l'État a les moyens. Je pense que vraiment, telle n'est pas la réponse. Hein.
D'accord. Koumba Tangara, vous êtes parent d'élèves. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation?
Merci, M. Touré, de m'avoir invité à ce débat du grand dialogue. Je tiens à féliciter également les studios Tamani pour l'effort que vous fournissez, en tout cas pour informer les populations. En ce qui concerne cette situation de l'école malienne, je pense quand même que l'État doit toujours continuer à pouvoir faire un effort pour que nous, les pauvres, nos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Vous savez déjà, au Mali, le niveau de l'éducation est très bas. Et sans compter maintenant avec ces grèves intempestives, donc maintenant, quel serait en ce moment le niveau de l'élève malien, sinon de l'étudiant malien? Je sais très bien que les enseignants, ils ont raison quelque part, parce que l'enseignant, c'est lui qui enseigne tout le monde. Avant d'être président de la République, c'est quelqu'un qui t'enseigne. Avant d'être journaliste, c'est l'enseignant. Avant d'être médecin, c'est l'enseignant. Avant d'être magistrat, c'est l'enseignant. Mais tous les corps dont je viens de citer, tout le monde sont au-dessus de l'enseignant. Donc moi, je pense qu'on doit quand même essayer.
Pourtant, le ministre de l'économie et des finances estime que les enseignants font partie des gens qui sont les mieux payés au Mali.
Ben, s'ils sont les mieux payés au Mali, en tout cas, moi je dirais que je l'ignore. Parce que franchement, moi, je vois pas un enseignant avec un niveau de vie, en tout cas... par exemple, un enseignant qui est cadre A et un juge ou un douanier qui est cadre A, leur mode de vie, en tout cas, est différent. Donc, qu'est-ce qui fait ça s'ils ont les mêmes salaires? Parce que vous savez, il y a les professeurs d'enseignement supérieur, il y a les généraux, il y a les colonels de la douane. Mais tous ceux-ci sont au-dessus, comment dirais-je, des enseignants. Mais qu'est-ce qui fait ça s'ils sont mieux payés? Donc, leur argent, ils jettent ça par la craie ou bien comment ils font avec? Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord à ce qu'on dit que l'enseignant est le mieux payé. Quand tu es mieux payé, est-ce que quand tu es mieux payé tous les jours, là, tu vas faire des grèves intempestives? Parce que l'enseignant, la grève aussi, pèse sur leurs enfants. Les enfants des anciens sont concernés par cette grève-là. Si les enfants et des enseignants prenaient des cours autrement, on allait dire que peut-être les enseignants, ils sont de mauvaise foi. Mais malheureusement que les enfants des anciens et nous, nos enfants aussi, qui ne sont pas des anciens, ils sont dans le même bateau. Donc moi, je dirais que l'enseignant a quelque part raison, parce que vraiment, dans la mesure où le problème frappe leur famille également, donc moi, je pense que le gouvernement doit essayer en tout cas de trouver un moyen pour mettre l'enseignant dans le minimum de confort. Surtout le problème de logement dont il persiste et il réinsiste là-dessus. Moi, je pense qu'avec les logements sociaux, là, ce problème doit être vite résolu. Ça doit être vite résolu. Même si on ne peut pas octroyer des logements sociaux à tous les anciens en même temps, mais en tout cas, on peut prendre par ancienneté d'essayer d'octroyer des logements sociaux. Et ils vont payer au même titre que les autres bénéficiaires. Mais peut-être la seule exception, comment je vais demander, comment dirais-je, pour les anciens, peut-être la caution qu'on dépose d'accepter ça pour les anciens et qu'on n'a qu'à leur donner des logements
des
sociaux.
Logements. D'accord. Djougamadi Sousso, est-ce que les enseignants font partie des mieux payés au Mali?
Mais ça dit que cela est indéniable. Si vous faites la part des choses, ce que l'enseignant gagnait avant, et maintenant, il y a vraiment une différence fondamentale.
Oui, mais aujourd'hui, quand on fait une comparaison avec les autres corps, est-ce qu'ils font partie des mieux payés?
Je vais vous dire une chose. Moi, je ne compare jamais le rôle de l'enseignant, le métier de l'enseignant à d'autres métiers. S'il y a un métier noble aujourd'hui, c'est le rôle de l'enseignant.
Mais est-ce que vous comparez le salaire de l'enseignant au salaire?
Mais est-ce que vraiment on a besoin de comparer le salaire d'un enseignant au salaire d'un douanier?
Pourquoi pas?
Parce que si vous voulez vous enrichir, vous allez à la douane. Mais si vous voulez former les gens, vous allez à l'école.
Mais est-ce qu'on ne doit pas former dans de bonnes conditions?
Mais justement, on va chercher des meilleures conditions pour que les enseignants soient mieux lotis.
N'est-ce pas ce qu'ils
demandent
aujourd'hui?
Mais pas forcément en disant que parce qu'un douanier gagne ça, que moi aussi je dois gagner ça. Non, ce n'est pas, logique. Et moi, je veux dire à madame, je suis membre de la commission de conciliation. Nous avons proposé aux enseignants. Nous avons proposé à la commission, au ministère, au gouvernement. Désormais, d'octroyer au moins 10% des logements sociaux aux enseignants. Et de voir, de dresser maintenant aussi une politique pour qu'au niveau de chaque mairie ou bien au niveau de chaque circonscription, on puisse donner des terrains aux enseignants. On a même demandé, on a été même loin, on a dit même pour les frais d'électricité et d'eau, de trouver une solution pour ça. Ce sont les débuts de solution. Mais maintenant, quand on veut se comparer...
Les débuts de solution, mais ça reste aujourd'hui des mots et des mesures annoncées.
Seul le temps est la solution des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi?
Êtes-vous patient pour attendre ce temps?
Avant de répondre à votre question, je reviens sur les interventions du doyen par rapport aux différentes négociations. Le gouvernement dit de ne pas avoir les moyens, ce qui est un propos alarmant. Parce que pour un ministre responsable, on ne doit jamais tenir de tels propos. Si on vous octroie une prime, on n'arrivera pas à vous payer. Je vous rappelle, pendant la transition...
Dans ce cas, avant d'arriver là-bas, où vont les 350 milliards de francs CFA, le budget alloué à l'éducation?
C'est la question, j'allais en venir. Le mode de gestion, vraiment, nous ne nous impliquons pas, mais nous comprenons un peu comment ça se passe. Mais ce qui est alarmant, il y a un ministre excellent de la République pendant la transition qui a eu à dire que même s'il n'y a pas d'argent, l'État va continuer à payer les gens jusqu'à la fin des temps. Mais quand, à l'opposé, des ministres aujourd'hui nous tiennent un langage vraiment qui fait peur pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. Un État n'a jamais de l'argent. C'est un système de recettes et de dépenses. Le budget, c'est ça, surtout avec le budget mode programme. Je vous rappelle que nous, nos revendications, nous ne les avons pas réfléchies à tue-tête. Nous nous sommes référés sur les documents officiels de l'État pour nous engager dans une dynamique de négociation, comme je l'avais dit, négociation annuelle obligatoire qui s'inscrit en droite ligne avec le budget programme qui est actuellement en vigueur. Et bien entendu, il y a d'autres programmes qui existent au niveau des finances publiques que nous avions explorés parce que nous avons eu des informations économiques financières. Je rappelle au doyen que la commission a une ouverture. La loi autorise la commission, par l'article 5, d'aller s'informer auprès des services économiques pour savoir réellement ce qui se passe. Maintenant, ce qui a été programmé annuellement, si l'État veut dévier l'utilisation pour d'autres préoccupations qu'il pense être beaucoup plus prioritaires que l'éducation, maintenant qu'ils ne le disent clairement et qu'ils disent cela à l'opinion nationale malienne et à l'opinion internationale.
Oui, mais avant d'arriver à ce niveau, aujourd'hui, les enseignants, vous, quelle est votre position? Est-ce que c'est la satisfaction totale des 10 points de revendication sans quoi vous n'allez pas rentrer en classe? Ou quelle est réellement votre... Est-ce que c'est des négociations, cela?
Jamais nous n'avions tenu ce langage.
Quel est
nous
votre langage?
Nous sommes toujours ouverts, jamais au grand jamais. Nous sommes toujours ouverts au dialogue et nous n'avions jamais demandé tout et tout de suite.
Mais pourtant, avez 6 et demi.
Je précise bien.
7 et demi.
Je précise bien que la comptabilisation des points d'accord ne peut pas être un argument de la part d'un gouvernement sérieux pour demander à la partie syndicale de s'exécuter ou de rentrer pour régler. Un gouvernement là qui n'arrive pas à apporter des solutions aux problèmes posés doit fondamentalement, moi à leur place, doit avoir la honte de ne pas trouver des solutions à ces problèmes-là pour exorber le problème. Plutôt que de vouloir communiquer autrement, de vouloir désinformer l'opinion nationale. Je vous dis que les 300 millions dont vous faites allusion, Les économistes le savent.
350
milliards dont vous faites allusion, les économistes en savent, bien sûr. Et combien de pourcentage
je veux juste mieux comprendre. Aujourd'hui, quelle est votre position réelle? Vous dites que vous êtes en négociation, c'est 10 points de revendication. Le médiateur dit que 7 et demi ont été satisfaits. Il reste 2 et demi. Alors, vous ne rentrez toujours pas en classe. Alors, quelle est réellement votre position?
Notre position, c'est quoi? La semaine, là, nous ne sommes pas en grève. Depuis le lundi...
Mais à partir du 15, vous devrez...
Je vais vous donner la précision. Il n'est pas informé de cela. Nous ne sommes pas en grève. Les syndicats n'ont pas mis les gens en grève dans cette semaine. Les gens individuellement ont compris que les salaires ne sont pas faits. Il y a une autre disposition de la loi qui dit que le 5, lorsque le travailleur constate que son salaire n'est pas fait, qu'il peut automatiquement aller à cette station de travail. Ça, c'est différent du mot d'ordre. Sinon, selon notre mot d'ordre, la grève a pris fin depuis le vendredi passé. Le samedi, les gens ont travaillé. Moi, personnellement, j'ai travaillé le samedi dans nos ateliers. Et le lundi, il y a des gens qui ont travaillé. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les montants qui sont attribués au niveau du département de l'éducation font l'objet d'une gestion calamiteuse. Il faut que l'opinion nationale le sache. Parce qu'un volume important est accordé à l'entretien du matériel, au confort, ce qui n'est pas normal. Nous voulons tous qu'il y ait en tout cas une gestion saine des deniers publics pour que l'éducation puisse souffler. Pour revenir un peu à l'intervention de madame, le niveau, si vous voyez que le niveau baisse au Mali, ce n'est pas forcément lié à la grève. La grève est un facteur, c'est indéniable, nous sommes tous d'accord, mais il y a un fait. Le système éducatif malien souffre de beaucoup de méthodes. Vous comprenez avec moi que dans les écoles publiques, c'est le langage qui est utilisé. La méthode du langage, c'est des images qu'on montre aux enfants. Ils parviennent à mémoriser, mais ils ne savent pas lire et écrire. Alors que c'est la méthode semi-syllabique qui est appliquée au niveau du privé où l'enfant apprend à écrire et à lire. Donc vous voyez, la cohabitation de ces deux fait que, naturellement, au niveau des écoles publiques, le niveau baisse. Et des élèves qui arrivent à la fin de leur cursus, ils n'arrivent pas à écrire et même prononcer, lire simplement leur nom est écrit. Donc cela doit revenir un peu à la lecture du PRODEC 2, le programme de centre de développement de l'éducation. Ce qui nous renvoie un peu, nous tous, à nos responsabilités, à comprendre que les méthodes qui sont utilisées au niveau de notre système éducatif doivent être évaluées. Le curriculum a besoin d'être évalué pour voir est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, il faudrait qu'on revienne à la base. À la case de départ.
D'accord.
Donc, je termine par le fait que quand les gens disent que les anciens sont les bien payés, mais ils ne sont pas au courant de la réalité. Les anciens sont payés, mais ils ne sont pas parmi les bien payés en République du Mali. Même le ministre de l'Économie a eu à tenir de tels propos au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons que c'est catastrophant d'entendre un ministre de la République ne même pas maîtriser les règles élémentaires de la comptabilité. Un débutant de la catégorie A, là, vous faites l'état, la situation même de son salaire brut, là. Moi, je ne vais pas le dire sur les antennes, mais la somme qui a été prononcée, là, les 280 000, ça n'atteint pas ça. L'écart est énorme.
D'accord.
Les gens ont des bulletins. Koumba Tangara veut réagir et je vous donne la parole.
Oui, moi, je voudrais juste dire à M. Koulibaly, si c'est pertinemment que le système de l'éducation au niveau du public et du privé ne sont pas les mêmes, pourquoi autant ne pas mettre ceci aussi dans vos revendications? Parce que là, en ce moment, vous serez coupable de la médiocrité de l'enseignement au Mali.
Je réponds juste à cette question.
Je vous rappelle que madame, le groupe là a été mis en place à cause de ces deux méthodes là. Lorsque nous avons dit en 2015 qu'il y a une école à double vitesse au Mali, une école pour les pauvres et une autre.
Sa question précise, c'est pourquoi ça fait l'objet,
ça fait l'objet d'une revendication en 2016. Nous avons un accord sur ça. Avec la réintroduction du CEP en 6e.
Et pourquoi
nous avons
un accord.
Mais jusqu'à présent, c'est pas appliqué. Mais cette année, lorsque nous avons réfléchi sur les préoccupations qui doivent être mises devant l'éducation, nous avons estimé que ce point-là, comme c'est déjà un accord, on peut, dans les négociations, faire, en tout cas, et incliner l'attention de l'administration sur ces préoccupations-là pour que ça puisse être appliqué.
Je crois que vraiment, il faut que ça soit gardé. Si on veut épeler tous les organes de son corps, on finira par s'insulter. La faiblesse de l'école est venue depuis très longtemps. Depuis très longtemps, le niveau est très faible. On a fait passer ici 85% des élèves dans les classes supérieures. Ça fait 59 ans que nous sommes indépendants. Ça fait 59 ans qu'on n'a pas pu trouver une méthode, un système éducatif cohérent. Moi, je le dis tout le temps à tous les sommets auxquels je participe. Les gens qui me reconnaissent pourront le prouver. Ce n'est pas le moment qu'il faut dire ça. J'ai dit que si un jour vous vous levez pour dire que le niveau de l'école est bas, on va vous faire la guerre avec vous. Maintenant, moi, je sais que l'école a été envahie par des gens qui n'ont rien à voir avec l'école. Quand tu prends des comptables de formation, quand tu prends quelqu'un qui a fait droit de formation, tu le mets dans l'enseignement, bon, c'est pas au niveau des enfants qu'il doit bien enseigner. Et puis les politiques, ils ont amené tout ce qu'il y a comme machin au niveau de l'école. Oui, on a laissé les gens recruter du n'importe quoi. On a mis dans l'école. Mais parler de ça aujourd'hui et qui voudrait, ainsi qu'on vous insulte, moi, je n'aimerais pas vraiment vous insulter sur ce plateau. Et c'est ce qu'il faut maintenant démêler, les ivraies. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il est temps maintenant qu'on se dise certaines vérités. Nous allons aller avec vous. Nous voulons aller avec vous. Et désormais, maintenant, sur la qualité académique même de l'école, on va s'y intéresser maintenant, nous, parents d'élèves. Mais de grâce, pour le moment, avec indulgence, nous vous demandons de ne pas permettre une école blanche, une année blanche cette année. Si vous le faites, ça va être très, très, très grave. Je n'ai pas besoin de consulter une boîte, des oracles pour ça, ou de consulter une boucle de cristal pour ça. Vous savez très bien ce qui va nous arriver.
Mais au stade où nous sommes, faut-il choisir entre une année blanche et une année bâclée?
Non, pas bâclée, mais il faudra prendre maintenant d'autres dispositions. Les congés, bon, il y a des mesures coercitives qu'on va adopter quand même. Il va falloir maintenant empiéter sur les vacances, ou ceci, cela, précipiter, faire donner d'autres modules de leçons. Il faut qu'on le fasse. Et moi, ce que je demande aux enseignants aujourd'hui, qu'ils fassent tout pour que vraiment on puisse vraiment trouver quelque chose pour nos enfants.
Et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement?
Au gouvernement, nous allons leur imposer notre volonté après. Après qu'on ait résolu ce problème, nous allons leur imposer notre volonté. Parce que moi, ce que je crains, les politiques s'en mêlent maintenant. Les religieux s'en mêlent aussi. Et même tous ceux qui ont des agendas cachés maintenant commencent à se préoccuper de l'école. Ils ne se sont jamais préoccupés de l'école. Moi, je vois à l'Assemblée nationale. J'étais là-bas l'autre jour. On a été là, ils ont appelé la commission de médiation. Moi, j'ai pas pu retenir mes larmes. Quand je vois que le Mali, c'est le Mali qui donnait des enseignants à la Côte d'Ivoire et au Gabon. Et c'est au Mali aujourd'hui que les enseignants, les élèves, quand ils voient à Dakar, sont refoulés parce qu'ils n'ont pas un bon niveau. Et tout le monde est assis comme ça. Et ils n'ont, ça fait 2 mois, sinon 3 mois maintenant qu'ils sont dans cette saga-là. Et allez-y voir à Collège d'Horizon, l'école des Turcs, là, qu'on appelait Collège d'Horizon. Quand Collège d'Horizon est parti en grève ici pendant une semaine, toute l'Assemblée s'est mise en émoi. On a interpellé même le ministre pour ça. Et notre école, ça fait maintenant pratiquement 2 mois que nous sommes dans cette saga-là. On nous appelle pour des simagrées, là. On vient nous dire, bon, vraiment, il faut qu'on paye les salaires, il faut qu'on paye les salaires. Non! Parce que ces enseignants-là, de quoi se plaignent-ils? Ils se plaignent du revenu des ministres. Ils se plaignent du revenu des députés eux-mêmes. Ils se plaignent du revenu des ministres et des premiers ministres et du président de la République. Ils ont raison d'une part. Mais est-ce que pour autant nous allons jeter nos enfants dans la rue parce que Ibrahim Boubacar qui était avec sa vie précaire ou bien avec son matière précaire, est-ce que nous allons maintenant précariser l'avenir de nos enfants pour lui? Ce serait trop lui faire de cadeau. Moi je dis que non. Il est temps maintenant que les anciens sachent les ont gardés et de revenir à la population maintenant pour qu'on cherche leurs droits ensemble. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre gagne 75 millions ou que le président a 20 milliards de crédits de fonctionnement. On va régler tous ces problèmes-là après. Mais de grâce, que les politiciens ne s'en mêlent pas. Au Mali, aujourd'hui, le chemin le plus court pour s'enrichir, c'est la politique, le syndicalisme et la société civile.
Ah bon, le syndicalisme?
Oui, oui, j'ai constaté cela. Ces syndicats-là que tu vois là, tu crois que ce sont des imbéciles? Ils sont très malins. C'est des véritables politiciens que nous gérons comme ça, qui nous gèrent comme ça. C'est des politiciens. Et chaque fois qu'on discute avec eux, ils vont voir leur base. C'est vrai. Ils vont voir également d'autres niveaux. Au niveau des centrales syndicales. Au niveau des anciens ministres de l'opposition. On est au courant. Moi, je ne suis pas d'un parti politique, mais je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un con. Il est temps maintenant que les anciens se disent une chose. S'ils ont raison, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur raison comme ça. Il ne faut pas qu'ils mangent leur blé en herbe.
D'accord. Le grand dialogue, c'est permettre également aux Maliens de poser des questions. Et sur Facebook et WhatsApp, des questions ont été posées par des Maliens. Nous allons commencer par cette question d'un auditeur sur WhatsApp. Il a posé trois questions aux trois invités. Nous allons commencer par sa troisième question. La troisième, je précise, qui est adressée aux parents d'élèves. Oui. On va écouter.
Ma troisième question est la suivante. Je la pose aux parents d'élèves. Quand même, je n'ai pas vu d'actes concrets venant d'eux quand même, parce que ils n'ont pas marché, ils n'ont pas protesté vis-à-vis, même s'ils ont fait, ça dans l'ombre. J'aimerais savoir s'ils ont vraiment posé un acte concret face à cette crise-là.
Est-ce que les parents d'élèves sont réellement mobilisés face à cette situation, Koumba Tangara?
Je remercie l'auditeur en question. C'est la même question en réalité que moi-même je me pose. Je suis parent d'élève, certes, mais je ne fais pas partie d'une association de parents d'élèves. Je ne fais pas partie non plus de la Fédération nationale des parents d'élèves. Monsieur Sissoko vient de dire que l'école malienne a été politisée. Cette politisation de l'école malienne n'a pas commencé aujourd'hui. Donc tout de même, que les parents d'élèves aussi, ces associations, ces soi-disant associations de parents d'élèves, il faut reconnaître que ces associations-là sont politisées. Parce que un parent d'élève conscient, qui gagne son petit pain consciencieusement, qui paye l'école de son enfant consciencieusement, ne peut pas croiser ses bras et regarder l'évolution de l'école malienne de façon négative. Donc je dirais que ces associations de parents d'élèves ne font rien concrètement, en tout cas, pour pouvoir sauver l'école malienne. Et pour revenir à une phrase de Monsieur Sissoko, il a dit que quand Collège Horizon a été fermé, sinon l'école Marie-Flaturque, que toute l'Assemblée s'est levée. Mais vous savez pertinemment que aucun enfant d'enseignant, en tout cas, fréquente cette école de haut standing-là. Vous êtes d'accord avec moi?
Non, je ne suis pas d'accord avec vous, madame.
Non, il faut être d'accord avec
moi. Non, pas du tout. Donnez-moi la parole.
Allez-y, vous êtes moi, également de l'association.
Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Le diable est dans les détails, monsieur Touré. Moi, je vous parle de Dansa. Je connais des gens parmi eux, même syndicalistes, qui sont responsables des syndicats, qui ont leurs enfants à Marif. Je ne voudrais pas déballer des secrets ici. La délation, ce n'est pas mon propre. Peut-être que madame doit être même une épouse d'enseignant. Vraiment, peut-être qu'elle me le fera plus tard. Mais ce que je veux dire, le niveau de l'école aujourd'hui, elle dit que la politique a engagé... est en train
que l'association des parents d'élèves, la fédération est politisée.
Attendez, l'école, c'est pas vrai. Moi, je suis pas dans un parti politique.
Tout ce qui me regarde. Mais est-ce que l'association, les
autres. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les parents d'élèves, moi, je vous demande, madame, vous êtes parents d'élèves. Et il y en a des milliers comme vous. Est-ce que vraiment, même quand on les appelle pour venir à réunion à l'école, est-ce qu'ils viennent? La Fédération nationale des parents d'élèves a des problèmes aujourd'hui. Même les ressources pour pouvoir au moins faire un congrès, on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu avoir l'argent. Et tout ce que nous entreprenons au niveau de nos communes respectives, nous le dépensons de nos propres poches. C'est vrai, au niveau supérieur, on s'intéresse à la Fédération nationale des parents d'élèves, parce que nous arrivons à éteindre des feux entre eux. Et c'est grâce à nous, parents d'élèves, que la Fédération nationale des parents d'élèves, que même le CNU, on a pu recouvrer les clés du CNU pour les remettre à l'administration publique. Aujourd'hui, si on dit que la Fédération ne fait rien, c'est effectivement ne fait rien, parce que vous ne répondez pas à nos appels. Vous ne répondez pas à nos appels. Ça doit être spontané, ça. Vous devrez aller nous chercher pour dire, nous prendre par la peau des fesses pour nous dire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous n'avez rien fait de cela. Aujourd'hui, il est bien beau de s'asseoir aujourd'hui pour dire que les parents d'élèves n'ont rien fait. La Fédération nationale des parents d'élèves a toujours agi dans l'intérêt des enfants. Et nous n'avons jamais croisé les bras.
D'accord, elle veut réagir sur ça.
S'il vous plaît, comment l'association des parents d'élèves là est structurée? Parce que si nous regardons un peu les communes de Bamako et puis même les régions, est-ce que, comment dirais-je, vous dites que vous êtes membre de l'association des parents d'élèves ou de fédération ou de la fédération, je ne sais pas. Oui. Mais est-ce que vous faites appel en tout cas à l'association des parents d'élèves de chaque école ou de chaque commune, en tout cas pour pouvoir s'asseoir et débattre du problème de l'école malienne?
Vous vous rappelez malienne. Quand les privés ont été en grève, quand les privés là ont été en grève, les promoteurs d'école. Mais bien avant ça, moi je n'ai pas vu dans une école où on appelait les parents d'élèves et qu'ils soient venus. Moi j'étais parent d'élèves au lycée Mambi de Kati. Il y a plus de 2500 élèves. Mais quand on convoque les parents d'élèves, quand on envoie même des avis de réunion aux parents d'élèves, tu ne reçois que 17 à 20 personnes. Les gens m'entendent. Si c'est faux, qu'ils le disent.
Mais on les appelle. Pardon, madame. Moi, je suis parent d'élèves. Depuis que mes enfants sont à l'école, j'ai
horreur. On va revenir sur les questions des auditeurs. Il y a une première question que l'auditeur a posée, qu'on va écouter, qui est adressée à Soumana Koulibaly.
La première question, est-ce que l'année blanche, longtemps salmodié sur notre lèvre là, est-ce que cette année blanche là est évitée?
Est-ce qu'elle est évitée, l'année blanche?
Bon, la question revient à l'administration. Moi, je ne peux pas répondre à celle-là.
Vous êtes aussi responsable parce que vous êtes en négociation. C'est vous qui êtes en grève.
Oui, je peux vous donner la réponse en deux temps, au nom du syndicat. En tout cas, en tant que syndicaliste, nous ne pouvons pas répondre au nom de l'administration. C'est à l'administration de voir, de faire des calculs de comptabilisation pour voir les semaines exécutées et les semaines à venir, comment faire les réaménagements. C'est pas notre rôle.
Si vos revendications ne sont pas satisfaites, est-ce que vous allez accepter qu'il y ait une année blanche?
Accepter comment? C'est pas nous qui façonnons l'année blanche. Il faudrait que ça soit clair, hein,
dans l'esprit des gens. Mais c'est vous qui êtes en grève. Il y a 7,5 de vos points de revendication, selon monsieur le médiateur, qui ont été satisfaits. Aujourd'hui, il en reste 2,5. Et vous n'êtes toujours pas en classe. Vous n'êtes pas en classe, je le dis, parce qu'il y a un préavis de grève qui est en cours. Le 15 avril, une autre grève devrait commencer. Aujourd'hui, est-ce que si vos revendications toutes ne sont pas satisfaites, est-ce que vous allez rentrer en classe pour éviter une année blanche?
La question, elle est très simple. C'est que nous ne sommes pas en grève cette semaine. C'est qu'il faut retenir.
Oui.
Ensuite, je reviens sur le fait que l'année blanche, elle est du ressort de l'administration.
Non.
L'année bâclée, c'est du ressort de l'administration. C'est l'administration qui est totalement responsable de cela. Nous ne faisons que poser des conditions pour que les dialogues puissent être
établis. Vous êtes responsable de quoi?
Notre préavis, ne prenez pas notre préavis comme...
Non, aujourd'hui, je veux comprendre par rapport à l'année blanche. Vous êtes responsable de quoi, vous?
Nous sommes responsables pédagogues, bien sûr, au niveau de nos classes. Lorsqu'il s'agit d'aller enseigner à nos enfants, oui, on ne fait pas lorsque les négociations échouent.
Il faut conduire à l'année blanche.
Il n'est pas dit que forcément les négociations vont échouer. Il faut comprendre ça. Hein. Le préavis est lancé pour créer un cadre de négociation entre les partenaires, les deux partenaires. Maintenant, c'est lorsque les négociations échouent qu'on va en grève. La grève est observée. Je vous l'avais dit dans mes propos. Si vous voyez que nous avons observé ces différents préavis des grèves jusque-là, c'est parce que quelque part, la chose a été légèrement réglée. On a cru qu'à un moment donné, en tout cas, il faut violer la loi, faire la pression sur ces jeunes gens.
Vous avez dit quelque chose de très important tout de suite.
Il faut mettre la pression.
Vous dites que c'est parce que la chose a été légèrement réglée.
Pourtant,
vous avez un préavis de grève pour le 15 avril prochain.
Bien sûr.
Ça a été légèrement réglé. Pourtant, vous n'acceptez pas toujours de rester en classe.
Et raison pour laquelle nous rappelons à l'administration et au peuple malien que l'école reste une priorité. Tout ce que nous avions posé comme revendication, c'est dans le souci d'améliorer le système éducatif. Parce que les chercheurs l'ont dit, il est établi dans tous les rapports sérieux que tant que l'enseignant n'est pas mis dans certaines conditions, il n'est pas, en tout cas, loisible de penser à un enseignement de qualité. Je ne dis pas que c'est la seule condition. Mais nous pensons quand même qu'il faudrait que les gens comprennent que les enseignants doivent être au centre, c'est les principaux acteurs du système éducatif. Tout ce que nous avions posé comme revendication, ça va dans le sens de l'amélioration du système éducatif.
D'accord, je reviens encore pour le préciser, nos sollicitations à l'endroit des autorités scolaires sont restées vaines. Mais il y a le ministre de l'Éducation qui a proposé une solution, qui est la suivante. Il dit, nous avons une stratégie de sauvetage de l'année, nous allons voir comment faire des cours de remédiation, comment faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école le samedi inclus pour faire une sorte de cours intensif et empiéter sur les vacances. Et la condition sine qua non, c'est une entente entre le gouvernement et le syndicat. Cette mesure, est-ce qu'elle est convaincante?
Bien entendu, c'est les circonstances particulières. Face aux circonstances particulières, si les deux parties et le peuple malien conçoivent que ça peut être une solution. Mais
qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Que les enfants aillent à l'école du lundi au samedi, 6 jours dans la semaine, qu'il y ait des cours intensifs, qu'on empiète sur leurs vacances. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie?
Et cette stratégie, en temps réel, elle n'est pas la bienvenue.
Dès le départ, nous l'avons rejeté. Nous pensons que c'est une stratégie de remédiation qui ne peut pas, parce que...
Et qu'est-ce que vous proposez si vous l'avez
rejeté? Vous saviez, il y a des méthodes qui en existent déjà. La méthode de la première dame, les couples de soutien qui existent. Nous avions combattu cela. Nous avions pensé que c'était une méthode juste pour politique, pour apporter un soutien, je ne sais pas, avec des tapages politiques pour faire croire aux gens que des remèdes sont apportés aux maux, alors qu'en réalité, c'est pas. Il faut s'attaquer aux causes réelles. C'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit que l'ajustement désordonné au niveau du secteur de l'éducation n'est pas une solution. L'ajustement désordonné, c'est quoi? C'est tenter de colmater des brèches par-ci, par-là.
D'accord. Du coup, Madi,
alors qu'on ne s'attaque pas aux causes réelles.
Une solution,
il n'y a pas de solution. Je n'en vois pas.
Parce donc, c'est une année blanche.
Parce que pourquoi? Vraiment, nos cadets ne sont pas de bonne foi. Et ils mènent un procès d'intention contre le gouvernement pour dire que le gouvernement néglige ceci, le gouvernement dit ceci, qu'ils sont trop nombreux, etc. Non, ça c'est des procès d'intention.
Est-ce que le gouvernement est de bonne foi?
Le gouvernement est de bonne foi. Il ne peut être que de bonne foi.
Qu'est-ce qui le justifie?
Maintenant, c'est un problème de cadre qu'il faut maintenant mettre en place pour ce qu'ils demandent, qui est le point principal. Le point d'achoppement de ce préavis de grève-là, c'est-à-dire le point de primes de logement.
D'accord. Si le gouvernement est de bonne foi, ouais, est-ce que ce gouvernement a la capacité de régler ce problème?
Mais nous sommes obligés de trouver ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Mali a des problèmes, c'est
mais
vrai.
Mais vous êtes d'accord que c'est le gouvernement qui doit montrer la voie?
Mais le gouvernement a montré la voie, le gouvernement continue à montrer
pourquoi
la voie.
Pourquoi on n'arrive toujours pas à trouver la solution?
Parce que je vais vous dire une chose. Il y a un nègre qui a été il y a un
nègre
qui a été.
Ça veut dire...
Quoi que nous allons mettre en place, tant que cet esprit mercantile-là n'est pas délaissé par les enseignants, ça ne pourrait pas marcher. Il faut se dire la vérité. Hein?
En tout cas, moi, je m'inscris en faux.
Parce que,
ça,
non, je vais vous le dire. Pendant toute la négociation qu'on a eue avec eux, chaque fois qu'on leur disait quelque chose, ils étaient consentants au départ. Après, ils nous disent, bon, nous allons nous voir dehors, après on va rentrer. Et quand ils viennent encore, ils viennent solennellement, sagement nous dire, à un chapitre d'adverbe, vraiment, sincèrement, franchement, honnêtement.
Ça fait trop de mains. Alors, Mba Tangara, la situation relève désormais de la primature. Est-ce que ça vous donne espoir?
Ça nous donne espoir parce que tout qu'on fait, nos autorités sont nos autorités. Mais ce que moi, je demanderais aux enseignants, en tout cas, de mettre un peu d'eau dans leur vin pour pouvoir sauver l'année. Parce que nous, pauvres là, qui payons l'école privée de nos enfants, si l'année devenait blanche, moi, je pense que nous, quand même, ça va jouer surtout sur notre budget, parce que les enfants vont reprendre les mêmes classes. Et même si on empiétinait sur, les vacances, est-ce que ça peut être la solution? Je dirais non, parce que les enfants qui sont dans les classes d'examen, comment ils vont faire? Donc vraiment, je demanderais aux enseignants que Samba Djobe Kelédola à Teouere Tchekoumbo, ils n'ont qu'à regarder en face. Les enfants là, c'est pour nous tous. Et l'éducation malienne, c'est pour nous tous. Et les gens qui sont au pouvoir là, ça ne leur dit absolument rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont l'habitude de nous dire, si vos enfants ne rentreront pas en classe, nos enfants vont aller étudier ailleurs et nous, on vous coiffe, nos enfants viendront coiffer vos enfants. Ce seul mot là doit faire l'objet que vous mettez de l'eau dans votre vin.
Est-ce que vous allez mettre de l'eau dans votre vin?
Nous avions mis de l'eau dans notre boisson parce que nous avions pris l'engagement que sur les 3 points de blocage, qu'on était prêt à céder le point 6 sur les examens de concours. Et que si le gouvernement était animé de bonne foi, qu'il fasse des propositions réelles, tenables devant le peuple malien concernant la prime de logement et concernant la commission que nous devons mettre en place avec un objectif clair permettant au plus grand nombre d'anciens, ceux des collectivités, d'accéder aux postes des centraux au niveau de l'éducation.
Mais ça, c'est déjà fait.
Sans quoi?
L'objectif doit être clair. Mais nous avons mis de l'eau parce que nous sommes prêts à abandonner le point 6. Ça, c'est
mais le point 6 n'est rien, c'est déjà fini.
C'est un point capital, c'est les examens et le concours avant tout là. Ça implique beaucoup.
Le point 6
est la solution aujourd'hui, monsieur le médiateur.
Le point 6 est déjà résolu. Le processus est déjà
résolu. C'est déjà résolu.
C'est pratiquement résolu. Non. Moi, je vous dis, ce qui est chopant là-dedans aujourd'hui ne mérite pas vraiment de mettre les enfants dans la rue. ne mérite pas vraiment qu'on mette les enfants dans la rue, qu'ils sachent qu'ils ont gardé.
Et quelle est la solution aujourd'hui?
La solution, c'est qu'on crée un cadre de consentement pour les primes de logement là. Parce que les logements là, il faut comprendre, ils ont les logements, ils ont les primes de résidence.
Non.
Ils veulent maintenant des primes de logement. Non, le décret est là, moi je l'ai ici.
On a la résidence.
Vous avez la résidence.
D'accord, on va retenir comme solution un cadre de dialogue pour trouver une solution à ce problème. Merci à nos invités, Kumba Tangara, parent d'élèves, Djougamadi Sissoko, médiateur dans la crise scolaire, Soumana Koulibaly, membre du collectif des enseignants, signataire du 15 octobre 2016 à la régie audio Nuhum Djire, régie vidéo assurée par Mamadi Keïta. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Mandou.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.